Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
Info, analyse, reportage, comme toujours, Jocelyne Moussaou-Pondé nous accompagne pour ce tour de l'économie congolaise.
Comment améliorer l'aide de pays étrangers envers la RDC? Un forum se clôture en principe ce soir à Kinshasa. Quelles sont les nouvelles orientations? Nous appellerons Axel Goncho depuis le Grand Hôtel Kinshasa dans 2 minutes.
Et comment ramener le formel dans l'informel? Non, l'informel dans le formel. L'informel qui monopolise plus de 60% des activités économiques. Kaziragi nous en parle dans la seconde partie de cette émission. Une seconde partie qui reçoit Célestin Koubela, représentant des diamantaires du Kassai. Il nous dira si enfin il y a compromis ou pas sur la taxe de $500 imposée par le gouverneur la semaine dernière. Invité donc à suivre dans 10 minutes. Commençons par un tour du pays. Les fonctionnaires des régies financières observent depuis ce matin un arrêt de travail, Jocelyne.
À Kinshasa, les agents et cadres de la DGRAD, OFIDA et la DGI réclament la paix des arriérés de salaires et de primes. Le président de l'intersyndicale de régies financières estime que ce mécontentement est un message pour les autorités. Il est joint au téléphone par Daniel Tambinzoni.
Parce qu'ils sont non payés de la rétrocession de 4 mois et de leur prime dite à plus-value, 4e trimestre 2008. Il y a paralysie totale dans toutes les régions. Nous sommes conscients de la fragilité de notre économie. Nous sommes conscients du programme de développement du pays et nous devons tout faire pour mobiliser l'argent nécessaire afin que le gouvernement ait les moyens de sa politique. Au-delà de ça, nous devons vivre aussi. Ceci constitue un message vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Qu'ils sachent qu'ils ont des hommes et que ces hommes ont des responsabilités, ont des charges familiales à assumer. Il faut pour ce faire, ils doivent être payés.
Les régies financières qui n'ont mobilisé que 64% de ce qu'elles devaient mobiliser au mois d'avril et de mai. L'autre nouvelle, c'est Roche Mining qui va de record en record.
Cette filiale du groupe sud-africain Metorex exploite le cuivre et le cobalt à Lubumbashi. Sa production de métal rouge s'approche de 2000 tonnes par mois. Elle vient de connaître en mai une augmentation de 20% par rapport au mois d'avril. Sa production de cobalt augmente aussi de 33%. Roche Mining compte par ailleurs investir 7,5 millions de dollars pour implanter une usine d'acide sulfurique à Lubumbashi au lieu d'importer ses produits de la Zambie voisine.
Et l'entreprise Rio Tinto poursuit l'exploration des gisements de fer dans le territoire d'Isiro en province orientale.
Selon son administrateur Benjamin Guereza, un camp des géologues a été installé aujourd'hui à 8 km d'Isiro. Ces techniciens des mines ont pour tâche de prélever les échantillons qui devront vérifier la quantité et la qualité des gisements de fer grâce à des indices fournis par un avion qui a effectué un vol aéromagnétique en début d'année lorsque l'entreprise a lancé les explorations. Rio Tinto est une entreprise mixte impliquant des Britanniques, des Zimbabwéens, des Congolais et des Maliens.
Et les carburants défient la pesanteur à Boutembo.
Le prix du litre d'essence à la pompe est passé depuis hier de 800 à 1000 francs congolais et de 850 à 1100 voire 1200 chez les Kadhafi. Les importateurs des produits pétroliers expliquent cette hausse par la majoration des frais de douane au poste frontalier de Kassindi ainsi que par la variation constante à la hausse du cours mondial du baril de pétrole.
Jocelyne Moussaou-Pondé ne nous quitte pas. Vous revenez dans 2 minutes pour les infos économiques en Afrique et dans le monde.
La nouvelle économique au bout du fil.
Au téléphone ce soir, depuis le Grand Hôtel Kinshasa, Axel Goncho. Le Grand Hôtel Kinshasa, où se clôture normalement le forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide qu'accordent les pays étrangers et autres institutions à la RDC. Alors Axel, juste savoir si le forum a pris fin.
Georges, la cérémonie officielle de clôture aura lieu dans plus ou moins une demi-heure. Mmh. Elle n'a pas encore eu lieu, mais elle aura bel et bien lieu. Les commissions ont fini de mettre la dernière main sur les recommandations il y a quelques minutes. Les représentants des bailleurs, l'Union européenne, le PNUD et d'autres bailleurs de la RDC sont déjà là. Et là, nous sommes en train d'attendre le Premier ministre ou son représentant pour clôturer ce forum.
Et est-ce que vous avez déjà une idée des recommandations qui se préparent?
Oui, nous avons pu parler avec quelques participants, notamment le professeur Chekaï, qui coordonne la stratégie de croissance et la réduction de la pauvreté. En tout cas, il nous a confié que tous les bailleurs et le gouvernement congolais se sont mis d'accord pour la réduction des structures qui empêchent l'aide d'atteindre les cibles, c'est-à-dire les populations congolaises. Il y a trop de procédures sur la chaîne de décaissement de l'aide. Conséquence, l'aide n'arrive pas rapidement et efficacement aux bénéficiaires. Et donc, à l'issue de ce forum, on va mettre en place des mécanismes pour alléger les procédures de cette chaîne. Notre recommandation va porter sur un cadre légal de gestion de l'aide,
oui.
C'est-à-dire des projets de loi devront être soumis aux députés et sénateurs pour savoir exactement qui fait quoi et dans quelles circonstances en ce qui concerne l'aide des bailleurs au profit de la RDC.
Alors, très rapidement pour terminer, hier on abordait déjà cette question, est-ce que la crise actuelle ne peut pas diminuer la taille de l'aide étrangère ?
Évidemment, la crise aura un impact sur l'aide. C'est pourquoi un autre participant, celui de la société civile, nous a confié que lors de ce forum, on a insisté sur une gestion transparente des affaires de l'État et la bonne gouvernance, ce qui implique notamment la lutte contre la corruption et la gabegie financière, vu que les aides vont diminuer du fait de la crise financière internationale.
Merci Axel Goncho pour toutes ces précisions depuis le Grand Hôtel Kinshasa. Bonne soirée à tous ceux qui nous suivent à Kinshasa sur 103,5 FM.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Jocelyne Moussa Opondé.
Le FMI a revu à la hausse ses prévisions pour l'économie américaine.
Dans son rapport annuel, le Fonds monétaire international indique tabler sur une reprise progressive puis forte à partir de 2010. Le rapport souligne tout de même les risques qui la menacent, dont la crise de l'immobilier et une hausse de taux d'intérêt.
Et les États-Unis toujours qui annulent la totalité de la dette du Congo-Brazzaville.
Une dette estimée à 7 milliards de francs CFA après l'Allemagne et l'Italie, les États-Unis sont le troisième pays du G8 à annuler sa créance vis-à-vis du Congo depuis le début de l'année 2009. Le Congo-Brazza a atteint en 2006 le point d'achèvement de l'initiative PPTE du FMI et verra l'annulation de plus de la moitié de sa dette extérieure.
PPTE, pays pauvre, très endetté. Oui. Et les pays du BRIC appellent à diversifier le système monétaire mondial.
Le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine ont appelé aujourd'hui lors de leur premier sommet à Moscou à diversifier davantage le système monétaire international pour contrebalancer le poids du dollar. Le rouble et les yuan méritent d'être inclus dans le panier des devises de référence du Fonds monétaire international, ajoute le principal conseiller économique du Kremlin.
Et Nicolas Sarkozy ainsi que Jacques Chirac hués aux obsèques de Omar Bongo au Gabon.
Bois, pétrole, manganèse, on vous a tout donné. Si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce au Gabon, déclaré AFP, un de ceux qui s'en sont pris à Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Certains habitants ont même dit carrément qu'ils voulaient les Chinois. Sarkozy et Chirac représentent, aux yeux de certains Gabonais, les relations politico-financières floues entre la France et ses anciennes colonies.
Merci Jocelyne Moussa Opondé pour toutes ces informations économiques dans le monde. Écho d'économie sur Radio Capi tout de suite dans sa seconde partie.
Écho reportage.
L'éco-reportage nous retient à Kinshasa pour réfléchir sur l'économie informelle. Elle se présente comme survie pour la plupart des Congolais, mais échappe au contrôle de l'État. Comment la rendre formelle? Nous parlions bien de l'économie informelle. Comment la rendre formelle? Reportage de Kaziragi.
Ils sont de plus en plus nombreux, ces hommes et femmes, qui exercent des activités relevant du secteur informel. La raison qu'ils avancent tous ou presque est le manque d'emploi décent. Ces activités nous permettent de prendre tant soit peu en charge nos familles, déclarent ces vendeurs des rues de Kinshasa.
Normalement, ils ont été au Sipelaga. Côté Kabouité, ceux qui misent à l'Italie, bah, emploi à l'Italie, de côté de la Bouité, de côté Kabouité. pourquoi tout le monde dans ce sens tout trouver ne fils que ya kolia ya ko foutre la bande à Minerval ya ko foutre la bande quoi batou donc c'est ça.
Le secteur informel apparaît comme une réponse populaire aux réalités du milieu, une adaptation aux réalités de l'environnement économique et social. Mais qu'entend-on par économie informelle? Généralement identifiée par secteur informel ou secteur non structuré, l'économie informelle se caractérise principalement par la facilité d'accès aux activités, l'échelle restreinte des opérations, les marchés échappant à toute réglementation. En 1990, selon un rapport de la Conférence nationale souveraine, le secteur informel représentait près de 60% des activités économiques en République démocratique du Congo. Deux décennies après, il est évident que ces pourcentages représentent plus de 80% de ces activités. La part de l'économie informelle dans la création d'emplois s'est accrue continuellement au point de devenir le secteur dominant de la République démocratique du Congo. Bien que le volume de production de ces secteurs ait grandement augmenté, le secteur informel congolais ne joue pas un rôle essentiel dans l'économie nationale, fournissant des revenus minimes à ses employés. Considérant le dynamisme de ces secteurs, son expansion et sa fécondité, une interrogation reste pendante. Comment l'intégrer au formel? Lems Kamwanya, analyste économique.
Ce que la loi peut faire pour arriver à intégrer ces gens, c'est tout un processus qui passe par plusieurs étapes. D'abord, c'est question de les identifier. Ce sont des vendeurs, parfois en bilan sans résidence fixe. Question de voir quels espaces où on peut les occuper et commencer par une petite fiscalité. Parce qu'une des raisons qui pousse les gens à aller dans l'informel, c'est le fait qu'ils contournent le paiement des impôts.
En réalité, l'informel a toujours existé à côté du formel, tant dans des pays sous-développés que dans des pays développés. À côté de la réforme fiscale, cette intégration passe également par une réorganisation et une gestion rationnelle du système financier formel congolais.
Merci beaucoup Kaziragi. Place à l'invité de l'économie. Ce soir, nous allons en Bujimaï pour retrouver donc Célestin Koubela, président intérimaire du conseil provincial des mandataires, des diamantaires je veux dire. Le CPD a réuni ses membres aujourd'hui pour leur communiquer la suite des entretiens avec le gouverneur Goïka Sanji. Célestin Koubela, votre regroupement avait émis des réserves sur cette taxe de $500.
Bon, écoutez, nous avons harmonisé nos points de vue et tout est OK. Les diamantaires sont contents et sont tous derrière son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, dans sa politique de la reconstruction de la province du Kassai Oriental.
C'est-à-dire que vous acceptez cette taxe de $500?
Non, nous nous sommes mis d'accord sur certains points et nous avons révisité l'arrêté. L'arrêté n'est pas aboli, n'est pas annulé. On a révisité du montant à payer.
Ce sera maintenant quel montant?
Non, nous voulons d'abord être en action pour pouvoir le déclarer à la radio officiellement. Nous lui avons montré les difficultés que connaissent les diamantaires et que les diamantaires pouvaient payer ça et non pas ça. Et nous avons dit que nous ne payons pas les 550 et nous n'annulons pas l'arrêté. C'est-à-dire nous devons payer quelque chose, un montant convenu entre nous et son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province.
On peut juste savoir, vous avez réduit de combien de pourcentages par exemple?
Non, mais si je vous dis que nous avons réduit d'autant de pourcentages, c'est facile de calculer, monsieur le journaliste. Écoutez, il y a des choses que nous ne pouvons pas encore communiquer, mais qui restent d'abord dans notre famille. Quand ça sera officiel, vous serez informé.
Mais qu'est-ce qui vous empêcherait de payer les $550, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'argent dans le diamant?
Oui, bon, vous savez tous que nous sommes dans la crise financière internationale. La crise nous a pris, vous connaissez ce que les effets de la crise. Et quand nous avons parlé avec son Excellence, monsieur le gouverneur de province, nous avons dit que c'est une taxe. Et une taxe se négocie. Donc, nous avons négocié avec lui, lui en tant que notre père, parce que c'est lui le gouverneur de province. Il nous a compris, il a compati à nos difficultés et il a revu le montant à la baisse.
Oui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez là maintenant, à part la crise financière?
Oui, les difficultés que nous rencontrons maintenant, le diamant lui-même, il ne se voit pas, hein, il ne se voit pas, il est devenu rare. Et entre-temps, nous sommes confrontés à une concurrence déloyale avec les comptoirs des expatriés, parce que eux, ils amènent beaucoup de capitaux. Nous, nous sommes bloqués avec les marchandises achetées avant la crise. Et ces marchandises-là n'ont pas de prix. Nous sommes en train de nous refaire pour trouver un nouvel argent et recommencer le travail des diamants.
Si le gouverneur a compris vos difficultés, que vous ne payerez pas les 500 dollars, mais est-ce que après un temps, vous serez en mesure de payer cet argent qui devrait quand même servir à la reconstruction de la province?
Oui, ce n'est pas qu'après un temps. Nous nous sommes mis d'accord du montant que les négociants vont continuer à payer. Ils vont continuer à payer ce montant. Parce que le négociant, c'est la place intermédiaire. Il ne faudra pas que cette place disparaisse. Alors, il faut les comprendre, comprendre les difficultés. Et c'est ce que le gouverneur a fait. Il a compris les difficultés, il a compris les diamantaires. Et nous nous sommes tous ensemble mis d'accord. Et déjà, dès aujourd'hui, tous les diamantaires ont commencé à payer ce que nous nous sommes convenus avec l'autorité provinciale.
Monsieur Célestin Koubela, merci beaucoup de nous avoir parlé dans cette émission Écho d'économie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Écho d'économie qui a été réalisé par Daniel Tambinzoni, Jocelyne Moussaou, Kaziragi, sous la supervision de Nicole Ngaka. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous ont pris en cours, vous pouvez revoir cette émission sur www.radiookapi.net. Bonne soirée et à demain.